écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. vous avez déjà fait une demande de ce genre pour votre neveu et ça n'a pas marché. Pour votre mère, vous avez aussi essayé de le faire. Là non plus, ça n'a pas marché. Peut-être est-ce que ça marchera maintenant, vu que votre mère fréquente une personne qui semble profiter de sa faiblesse. Et là, il lui demande des sommes énormes. C'est une chose qui risque de faire basculer en votre faveur la demande de tutelle. Jeanne est convoquée chez un médecin pour un examen médical. Elle est furieuse. Elle va voir son avocat, qui est le même que son fils. L'avocat lui dit, c'est votre fils qui a lancé cette chose. Elle lui dit en colère, je refuse. Et de quel droit mon fils veut-il me mettre sous tutelle? Je suis saine d'esprit et j'ai bien le droit de faire ce que je veux de mon argent. Elle lui dit, écoutez madame, il serait plus simple c'est que vous fassiez des examens. Et puis, c'est une demande officielle, vous ne pouvez pas refuser. Alors acceptez pour éviter que ça aille trop loin. Elle lui dit, si vous trouvez que cela puisse arrêter cette affaire, je veux bien. Elle va voir plusieurs médecins qui ne trouvent rien de bien grave. Elle va voir un psychiatre aussi. Elle les paye tous pour qu'ils disent qu'elle est en parfaite santé. C'est ce qu'ils marquent dans leur dossier. Albert est furieux. David est resté à l'écart. Le temps de tout ça, Jeanne se demande si on lui a dit, si on l'a dit à son fils la scène qu'elle a eue avec David. Elle en a honte. Son fils Albert vient la voir. Elle refuse de le recevoir. David continue à faire sa grande vie. Il s'achète une voiture de sport, sort beaucoup avec des filles, fait quelques voyages, mais reste dans son studio. Dans les soirées, tout le monde se moque de Jeanne. David leur dit, elle a une fortune inépuisable. Les hommes lui demandent, tu oublies, c'est que tu t'occupes. Et pour ça, tu dois être un sacré talent de t'en occuper. Comment faire jouir une vieille? Se paye une villa sur la côte d'Azur, etc., etc. Quand il est absent, Jeanne se morfond et pleure chez elle. Lorsqu'il revient, elle lui dit, tu me laisses toute seule, je t'en supplie, pourquoi ne m'amènes-tu pas avec toi? Il lui dit, c'est pour ton bien que je ne le fais pas. C'est très pénible, à ton âge, il te faut du calme. Elle est triste, il lui dit, pourrais-tu me donner un peu d'argent? Oui, parce que chaque retour, il lui demande de l'argent pour rembourser ses frais. Il lui dit, vous voyez, vous participez à mes voyages. C'est comme ça que vous êtes avec moi. De temps en temps, Jeanne a honte de ce qu'elle est devenue. Elle dit à Marie, vous vous rendez compte de ce que je suis devenue? Marie lui dit, je sais madame. Il lui arrive de regretter le temps d'Adrien. Là, elle était une femme forte. Et puis elle était avec quelqu'un qui ne lui rendait rien. Mais pourtant, Adrien était difficile et même violent. Mais pas contre elle. Elle se dit aussi, payons les fautes que l'on a faites d'une façon ou d'une autre. Tu dois supporter ce qui m'arrive. Albert apprend dans les soirées ce que l'on dit de sa mère. Il est furieux. Il dit à sa femme, « Je vais embaucher un tueur pour tuer David. Un tueur professionnel. » Elle lui dit, « Non, surtout ne fais pas ça. » En fait, il nous aide à sa façon. Ça nous permettra de la mettre sous tutelle, parce qu'elle agit d'une façon illogique, et que ça nous sera plus simple de dire qu'elle n'est plus en état de gérer sa fortune. Pendant ce temps, dans les laboratoires, on étudie les rats et on se rend compte qu'ils n'ont pas la peste. Alors, est-ce vraiment la peste? On étudie les corps des cadavres et l'on voit que ça ressemble à la peste. Les morts sont de plus en plus nombreux en Europe. Les gens se cachent chez eux ou essayent de fuir. Mais aller où? Et puis l'Europe se ferme. Tous ceux qui essayent de s'en aller par mer, air, on leur tire dessus. Même les pays qui ne sont pas membres de l'Europe, mais près d'Europe, qui ont des frontières communes comme les pays helvétiques, la Turquie, la Russie, etc. Même en venant avec des valises pleines de billets de banque, on ne les reçoit pas. Dans ces pays proches de l'Europe, on a aussi la peste. Les Britanniques, qui se disent européens pour certaines choses et britanniques pour d'autres, peuvent, eux, c'est quitter l'Angleterre pour aller dans leurs colonies qui sont soi-disant indépendantes, comme la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Australie, etc. Malheureusement aussi, ces pays sont non libres et ne peuvent empêcher les Anglais d'y venir. Ce qui fait qu'ils sont aussi contaminés. L'Afrique, elle se moque de la peste. Elle a déjà tellement de maladies qu'une de plus ou de moins, ça ne change rien, surtout qu'en plus, ils ont leur guerre tribale. Et puis, ils ont leur sorcier gris-gris. Alors, ils sont prêts à toutes les épidémies. Très peu d'Européens réussissent à aller dans les pays qui n'ont pas encore la peste, et malheureusement, ils l'amènent en allant dans ces pays. Jacques, Rambert et Elisabeth Thévenet ont énormément à faire. À force de faire toujours les mêmes gestes, on ne se rend plus compte de ce que l'on fait, ni pourquoi et à qui on le fait. L'on devient une machine. Cela ne fait plus rien de diagnostiquer la mort. Même il serait surpris de ne pas la diagnostiquer. Thank you. Jacques se promène toujours le matin très tôt. Ça le détend. Un matin, dans une rue, il croise un jeune homme d'à peu près 18 ans, de taille moyenne, maigre, très maigre, le visage osseux, mais sympathique, cheveux blonds filasses, de grands yeux bleus, très frévureux, une grande bouche mince. Il a bouillé d'un pantalon et d'un t-shirt sale et déchiré. Jacques, en le croisant, a le corps serré. Pour ce malheureux jeune homme très séduisant. En le croisant, le jeune homme lui demande « Vous avez une petite pièce, monsieur ?» Jacques se retourne. Le jeune homme lui dit « J'ai faim. » Jacques, tremblant, heureux et ému parce qu'il sent le désir monter en lui, ne répond pas, mais met la main dans sa poche, en sort une pièce, l'attend au jeune homme. Le jeune homme lui dit « Merci, monsieur. » Puis sourit. Jacques, comme s'il était hypnotisé, ne peut quitter le jeune homme. Il lui dit malgré lui « Si vous voulez, je vous paye un café. » Le jeune homme lui dit, je veux bien, merci. Et ils se mettent en route. Jacques ne peut pas regarder le jeune homme. Il cherche un café qui est déjà ouvert. En trouvant dans une petite rue. C'est un café, disons, polo, tout simple. Jacques lui dit, nous allons rentrer ici. Ceci vous a-t-il ? Le jeune homme lui dit, oui. Ils entrent. La pièce est petite, il lui fait sombre, ça sent la poussière, la cigarette et le vin bon marché. Il n'y a personne dans le café. Le café qui à son comptoir est un homme fort, cheveux blancs, l'air jovial. Il porte une cigarette à la bouche et est en train de nettoyer ses verres avec un chiffon. Il leur demande « Vous désirez quelque chose, messieurs ?» Jacques lui dit « Nous aimerions du café, s'il vous plaît, avec des croissants. » Cafetier lui dit « Faut attendre un peu, je vais préparer le café. Pour ce qui est des croissants, il est trop tôt. » Jacques lui demande « Vous n'auriez pas quelque chose, peut-être du pain, je ne sais pas moi. » Cafetier lui dit, j'ai du pain d'hier, ça peut aller ? Jacques lui dit, oui, merci. Et ils vont s'asseoir, tous les deux, l'un face de l'autre, à une table. Jacques dit au jeune homme, je m'appelle Jacques Rambert. Le jeune homme lui dit, moi c'est Didier Dupin. Jacques lui demande, « Et que fais-tu dans les rues de si bon matin ?» Didier lui dit, « Rien. Je n'ai rien et je vis dehors. » Jacques lui dit, « C'est bien triste tout ça. Il y a de plus en plus de personnes qui n'ont plus rien. » Cafetier vient leur apporter le café et un morceau de pain. Il les serre et se retire. Le garçon met 5 sucres dans sa tasse et commence à boire. Jacques aussi. Le café n'est pas très bon. Enfin, ça fait du bien. Puis, après avoir bu une gorgée, le garçon trempe le pain qui est un peu rassis dans son café. Jacques lui demande, « Ça peut aller ?» Le garçon lui dit, « Oui, c'est très bon. » Vous savez, quand on vit dans la rue, on mange n'importe quoi. On fait même les poubelles. Jacques lui dit, « Je le sais. » Didier lui demande, « Comment le savez-vous ? » Vous semblez être une personne qui avait de l'argent ? Jacques lui dit, je suis médecin. Alors, je vois beaucoup de misère. C'est moi qui vais consulter les gens qui sont malades. Et pour la plupart, ils ont la peste. Didier lui dit, la peste, c'est terrible. Mes parents sont morts de la peste. Nous vivions dans un taudis. On est venu chercher mes parents pour les brûler. Moi, j'ai été obligé de me sauver parce que je ne voulais pas être pris et être mis en quarantaine. Jacques lui dit, t'aurais peut-être dû te laisser mener en quarantaine. T'aurais eu de quoi manger. Lilier lui dit, oui, mais je n'aurais pas été libre. Jacques, toujours pris par son désir, met le cache et essaye de parler sans émotion. Ce délicieux jeune homme, avec ses petites mains fines, son visage ou plutôt son regard, qui n'est pas vraiment beau, mais qui a quelque chose de très affectueux et attirant. Et puis son t-shirt, qui est trop grand pour lui, montre une jolie petite poitrine, certes très maigre, mais délicieuse. Cela l'agace, parce qu'il est attiré par ce jeune homme, et il en a honte aussi, et se dit qu'il a une sacrée maladie, oui, une sacrée maladie, plus terrible même que la peste, que de désirer ce genre de choses. Il devrait avoir honte. Le jeune homme pourrait être son fils. Quelle chienne de vie que de désirer des choses qui sont interdites. Le garçon voit qu'il observe et lui demande « Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça ?» Jacques rougit et lui dit « Comme ça, parce que vous pourriez être mon fils et que je trouve triste que vous viviez dehors de cette façon. » Le jeune homme lui dit « Je vous remercie. Il faut s'habituer à vivre comme ça. C'est dur parce que l'on ne peut pas avoir un endroit tranquille pour pouvoir dormir. Alors, vous comprenez, il y a les rats, ils sont forts et s'attaquent aux humains. On peut ni aller dans les allées, ni dans les caves et les greniers, et puis même vers les poubelles, parce qu'ils ont l'impression qu'on prend des choses qui sont sur leur territoire et que l'intérieur des poubelles est à eux. Alors il faut se méfier, même pour faire les poubelles. Et puis si on en est mordu, l'on risque d'avoir la peste. Et si on a la peste, c'est le four. Est-ce que vous croyez que l'on trouvera un médicament pour guérir la peste? Jacques lui dit, je crois que oui. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Une fois qu'il est fini de prendre leur café, le garçon lui dit « Je vous remercie. » Alors Jacques se lève pour payer le cafetier et vont sortir tous les deux. Le jour commence à se lever et Jacques lui dit « Je crois que je m'en vais. Vous laissez. Il faut que je reprenne mon travail. » Le garçon lui demande « Je ne peux pas aller chez vous ?» Jacques a une seconde d'hésitation. Il aimerait bien, mais se dit que cela risque de lui faire du mal d'avoir chez lui un si joli garçon. Alors il lui dit le corps serré « Non, je ne peux pas. Je ne suis pas seul. » Le garçon lui dit, je comprends, vous avez votre femme. Les femmes, bien sûr. Moi, enfin, ceux qui sont dans la rue ne peuvent pas avoir de femme. Ça aussi, ça nous est interdit. Pas de sexe. Enfin, pas de sexe, si l'on veut, parce que quelquefois, quelqu'un nous accoste pour des choses. Mais moi, je ne veux pas. Jacques lui dit, tu as raison. Le garçon lui dit, bon, eh bien, salut. Et il s'éloigne. Jacques le voit s'éloigner, le corps gros. Il se dit qu'il aurait dû faire en sorte de rester un peu avec lui. Juste près de lui. Une fois que l'enfant a disparu, Jacques s'en retourne. Il a le corps gros et plein de désirs. encore rentré chez lui. Il a toujours mal, très mal, mal de désir. Se déshabille et prend une douche. Et durant sa douche, se donne des coups au sexe. Le soir dans la clinique, en se préparant pour sortir, en se lavant les mains, Jacques et Elisabeth sont ensemble. Elle lui demande « Combien encore aujourd'hui ?» Il lui dit « Je ne sais plus. » En sortant de la clinique, elle lui dit, vous avez l'air très fatigué. Écoutez, je vous invite à manger chez moi. Il lui dit, je veux bien. Merci. Elle est heureuse. Elle va pouvoir la voir à elle seule durant toute la soirée. Elisabeth habite boulevard Haussmann dans un appartement populaire que lui a laissé sa mère dans un vieil immeuble du 19e siècle cossu. Elle est au 3e étage. Elle est claire et lui dit ne faites pas attention, c'est très simple ici. C'était l'appartement de mes parents. Je n'ai rien changé. C'est un peu vieillot, mais ça me va. L'appartement a 4 pièces, très sombre, avec des meubles 1930 en bois massif. Venez. Elle le fait entrer dans un petit salon rempli de meubles, de bibelots, de plantes vertes. Ça fait un peu rococo. Elle lui dit, asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Il va s'asseoir dans un fauteuil en cuir. Il lui dit, oui, donnez-moi un petit remontant. J'en ai bien besoin. Elle lui dit, whisky? Pardon. Bourbon? Ricard, du vin? Il lui dit, un bourbon, merci. Elle va lui chercher une boisson dans un buffet. Avec deux verres. Puis elle revient. Et fait le service. Tenez, merci. Il va s'asseoir en face de lui. Il boit en silence. Il lui dit, ça fait du bien. Elle lui dit, oui, ça fait du bien. Elle se lève et lui dit, je vais préparer le repas, mais ce sera très simple. Vous savez, nous n'avons que très peu de provisions. par les temps qui courent. Il lui dit, je suis sûr que ce sera très bien, merci. Et elle le quitte. Va à la cuisine préparer le repas. Lui, pendant ce temps, termine son verre et se repose. Une demi-heure plus tard, ils sont en train de manger tous les deux à la cuisine. Elle a dit que ce sera très simple de manger à la cuisine, plus simple de manger à la cuisine et plus intime. Elle a préparé une petite salade, une purée de pommes de terre, du poisson et pour le dessert un peu de fromage. Il lui dit, ça a dû vous coûter une fortune d'acheter une salade. Elle lui dit, oui, ça coûte très cher, mais dans la cour de notre immeuble, nous avons décidé, les habitants de l'immeuble, c'est de faire un petit jardin potager. Et l'on arrive à faire pousser certaines choses, comme un peu de salade. Il lui dit, c'est très bon, merci. Elle lui dit, je suis sûr que comme tous les hommes seuls, vous devez quasiment rien manger. Il lui dit, oui, la plupart du temps, je me contente de peu. Un sandwich au jambon et un café. Elle lui dit, c'est très peu, surtout avec le travail que vous faites. Il soupire et dit, oh, le travail. Il soupire et dit encore, vous êtes un camarade. Elle lui dit, merci. Mais triste, elle voudrait plus. Il lui dit, dans ce métier, il faut être dur avec les sentiments. Lorsque j'étais jeune, je rêvais d'une médecine miraculeuse. Maintenant, nous mettons les mains dans la merde et nous envoyons au four. Elle lui dit, certains le savent, je le vois dans leurs yeux. Il y en a même qui disent, je sais pourquoi je suis là. Au début, je disais que c'était faux et maintenant j'ose plus nier. Je leur dis rien. Jacques lui demande, que voulez-vous que l'on fasse d'autre? Et puis tout le monde sait que lorsque l'on a de la peste, on finit en four. Enfin, ce n'est pas de cette destinée dont je rêvais lorsque j'étais jeune. Puis, ils ont fait la vaisselle, il l'a essuyée. Elle lui dit, nous ressemblons tous les deux à un vieux couple comme ça. Et il rit tous deux. Puis il lui dit en la quittant, vous êtes un vrai collègue efficace. Et lui demande, comme ça? Il ne lui dit rien et la quitte. Les gens ont peur lorsqu'ils se sentent mal, ils n'osent pas faire venir le médecin, mais comme la famille a peur, elle le fait venir. Avant que le service d'hygiène vienne, pour ne pas être mis en quarantaine, certains partent. Lorsque le médecin arrive, le malade lui dit, vous allez m'amener à la mort. Le médecin, après avoir ausculté, prévient les autorités pour prendre le malade qui est mené dans un mouroir et mettre les gens qui vivaient avec lui en quarantaine. Les gens qui sont restés. Le malade effrayé a peur et crie, non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas qu'on me brûle. Le médecin appelle les hommes, on prend le malade pour le mettre dans un camion en ne lui disant rien. C'est terrible. La plupart des gens qui ont la peste ce sont toutes des personnes démunies qui vivent dans des conditions très pauvres, dans des taudis humides, sans sanitaire et que deux pièces pour toute la famille. Ils n'ont pas de travail. La plupart du temps, la peste s'attaque aux plus faibles de la famille, c'est-à-dire aux personnes âgées ou aux enfants. Comme tout le monde sait que c'est une maladie qui est très contagieuse, on a peur. Et malgré les supplications du malade, malgré sa fièvre et sa faiblesse, il comprend ce qu'il a et ce qui va lui arriver. Il supplie la famille de ne pas appeler les autorités. Mais la famille appelle les autorités. Mais avant que le médecin ne vienne constater la maladie, les membres de la famille décident de quitter les lieux et de se cacher pour ne pas être mis en quarantaine. Car les gens qui sont mis en quarantaine aussi risquent la peste, et puis en étant en quarantaine, ils ne sont plus rien, ils n'ont plus de logement, et le peu d'argent qu'ils ont, on le leur prend. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent en Europe. Même pour les soins, on manque de personnel. C'est-à-dire que les médecins, les services soignants tombent aussi malades. Des personnes surveillent les logements qui sont vides de leurs habitants pour cause de mort, de quarantaine, pour les vider, revendre au marché noir ou passer en fraude dans les ports pour vendre la marchandise en Afrique du Nord ou du Sud. Ils font ça comme pour les voitures. Car malgré que la navigation soit interdite, comme tous les transports qui vont à l'étranger, la nuit, des bateaux réussissent à sortir du blocus et aller dans les pays pour revendre leurs produits volés. Même certains bateaux reviennent au petit matin remplis de produits des pays où ils sont allés. Tout ceci est fait des fois avec la complicité des douaniers militaires. Plus la discipline est stricte, plus les interdits sont nombreux et plus il y a des gens qui soudoient la loi. On a beau expliquer aux gens que c'est pour leur bien, rien n'y fait. John est de plus en plus sous l'emprise de David. Lui en profite à fond. Des fois, elle se rend compte de sa folie et elle lui refuse ce qu'il demande, comme un bateau de plaisance. Fou de rage, il lui dit « Garce ! Garce ! Tu es riche, tu peux bien faire ce cadeau !» Et lui dit timidement « Non, je ne peux pas !» Alors il devient furieux et lui donne des gifles. La fait tomber à terre. Hop ! Il donne des coups. Il ne se retient plus, ne cherche plus à jouer le mandin, le bel homme intelligent. Mais il reste sans masque. Il n'a plus de masque, c'est-à-dire qu'il est un homme violent, vulgaire, sans respect. De guerre-là, c'est aussi parce qu'elle en peur, elle lui dit « D'accord ». Il ne la remercie même pas. Une fois qu'il a son chèque, il part comme ça. Oui, il part comme ça, en claquant la porte. Elle a beau se dire que c'est un homme froid, mais chaque fois qu'il lui dit qu'il va la quitter, elle craque. Marie entend tout ça. Elle le répète au fils Albert, qui lui commence à voir rouge. Un jour que Jeanne refuse de lui donner la somme qu'il demande, la plupart de sa fortune est dans son testament pour son fils. Et son petit-fils surtout, Adrien, s'il revenait. Et en plus, elle a fait un gros don à David dessus. Ce qui lui reste est pour elle, pour qu'elle vive décemment. Si elle donne trop d'argent à David, elle risque d'avoir des ennuis financiers. Et puis elle lui a déjà donné de très grosses sommes. Et se dit que peut-être que ça doit suffire. Comme il voit qu'elle hésite à lui donner de l'argent, alors il fonce sur elle. Et là-bas,
Tu feras ce qu'il te demande, tu feras tout.
Puis, il la quitte. En la laissant dans un tel état que Marie est obligée de téléphoner au docteur Rambert. Le docteur arrive, auscute John dans sa chambre. Elle est allongée et lui demande « Qui vous a fait ça ?» John lui dit « Personne. » Il n'insiste pas. Il se dit que c'est une histoire de famille. Trouve ça très étrange et se demande s'il ne devait pas prévenir les autorités. Mais non, parce que John est une personnalité très importante. Cyril, malgré que ses études ne soient pas finies, est envoyé au séminaire de Paris parce qu'il n'y a plus de place. On lui a fait prendre le train pour aller là-bas. Il va se rendre compte que les curés au séminaire de Paris sont des gauchistes. Oui, le séminaire est tenu par des gauchistes. Le séminaire est une grande bâtisse grise qui ressemble plutôt à une prison. En arrivant au séminaire, il va se présenter au supérieur, très intimidé, parce que le lieu lui semble triste et sombre. C'est le concierge, un homme petit, chauve, qui le met au bureau du supérieur. Il lui fait suivre un long couloir très sombre, avec de nombreuses portes. Et au bout du couloir, il y a une grande porte en bois.
Le concierge a frappé à la porte. Il m'a dit, entrez. Le concierge entre et fait entrer Cyril. Il se trouve dans un bureau, un grand bureau, avec tout autour une bibliothèque qui va jusqu'au plafond. Et assis à son bureau, un homme, grand, maigre, l'air sec, cheveux blancs, habillé en costume de ville. Le concierge lui dit, « Monsieur, je vous amène le nouveau. » Supérieur se soulève et dit, « Approchez-vous. » Cyril s'approche. Le supérieur lui dit, « Je suis supérieur de cet établissement. Cela ne veut pas dire grand-chose. Nous sommes en autogestion. Ce que vous allez apprendre ici, c'est l'humanité, la charité et être un homme de bien, c'est-à-dire un homme de gauche. Car le rôle de l'Église est de faire en sorte à ce que les gens sur Terre puissent vivre d'une façon décente. Nous vous prenons dans cet établissement tout en sachant que vous avez eu des études très précaires. C'est un peu par charité. Il faudra faire beaucoup d'efforts. Les personnes qui sont ici sont d'un milieu plutôt, disons, de culture de gauche et leurs parents sont pour la plupart des enseignants. Quelles sont vos idées politiques ? Cyril ne sait quoi dire. Alors il dit, je ne sais pas. Le supérieur lui dit, je vois. Lorsqu'on n'a pas d'idées politiques, cela veut dire que l'on est de droite. Ici, nous ne voulons pas des personnes de droite, parce que ce sont des fascistes. Cyril est ouche de honte. Il pensait qu'on allait lui poser des questions sur la religion. On lui pose des questions sur ses idées politiques, il ne sait plus. Le supérieur lui dit, nous vivons une époque très dure, et ceci à cause de ceux qui dirigent le pays, c'est-à-dire les capitalistes. Ce sont eux qui ont détraqué la terre et ont créé la sécheresse. Pour la peste, c'est la même chose. Il soupire et dit, bon, vous pouvez amener ce jeune homme au dortoir. Cyril est très déçu. Mais ne le montre pas. Il est mené au dortoir. C'est une grande pièce avec une cinquantaine de lits de chaque côté. À côté de lui, des lits, il y a une petite armoire. Le concierge monte son lit et son armoire et lui dit « Rangez vos affaires, ensuite vous pourrez descendre à la récréation. » Et il le laisse. Cyril, seul, commence à ranger ses affaires. Et la vie commence pour lui dans cet établissement. Vie triste, monotone. Il n'y a rien de très religieux. On parle surtout d'idées de gauche. On parle même du mariage des prêtres pour éviter la pédophilie. Cyril parle à son voisin de droite de cette histoire de mariage des prêtres et de la pédophilie. C'est un garçon un peu plus jeune que lui, maigre, le visage osseux, les cheveux blonds, de grands yeux bleus tristes. Il s'appelle Baptiste. Baptiste lui dit, le mariage ne résout rien. Parce qu'ils sont comme ça, et que ça les empêche pas de faire des choses sur les enfants. La plupart de ces actes sont faits à 90% dans le milieu familial. Taper sur les prêtres catholiques, parce que la religion catholique est à l'agonie, c'est tirer sur une ambulance. Pour ce qui est de ce problème, c'est toute la société qui est touchée, que ce soit au bas de l'échelle qu'au plus haut. Dans l'enseignement, lorsqu'un enseignant est pris, il est déplacé et on ne dit rien. pour les éducateurs et les animateurs, c'est la même chose. Ce que l'on reproche aux prêtres, on peut le reprocher à toutes les classes, même aux autres religions. Et puis attaquer exclusivement la religion catholique, c'est cacher la forêt. Un prêtre marié peut plus facilement cacher son crime à l'intérieur de sa famille et même des fois avec la complicité de sa femme. Ça, c'est vu. Cyril réfléchit et se dit qu'il a raison et se dit qu'un prêtre est plus coupable parce qu'il représente Dieu et doit donner l'exemple. Mais nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Jugnet, Erebos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Jugnet.